Les musiques sont
nos raisons de vivre,
des amis intimes,
des gestes politiques,
des espaces hors du monde.
Elles sont réconfortantes,
des manières d'exister,
nos formes d'expression.
Elles nous font
danser,
rire,
pleurer,
vibrer,
aimer.
Les musiques sont notre histoire,
des traces du passé
et des messages vers le futur.
Les musiques sont tellement de choses à la fois.
Et si on les regardait de plus près ?
Je suis Margot.
Je suis Camille.
On a imaginé un moment à nous et à vous.
Un terrain d'échange et de partage.
Pour les actrices de la musique.
Celles qui la font.
Celles qui l'écoutent.
Celles qui l'analysent.
Et tous celles qui y trouvent un intérêt.
Bienvenue dans Girls Don't Cry,
le podcast qui regarde les musiques. Dimanche 26 novembre 2023, dans le cadre du Girls Don't Cry Festival, nous organisions une table ronde sur les utopies queer dans les cultures geeks. Nous avons pensé que cette thématique, bien que n'étant pas directement liée à la musique, pourrait intéresser les auditeuristes de Girls Don't Cry Podcast. Nous vous proposons donc ce hors-série, animé par Solène Labout et Elisabeth Monteil, dans lequel vous entendrez
Dominique Do, tatoueuse et graphiste transfemme. Elle travaille dans son atelier privé Le Cocon à Toulouse et enseigne le graphisme dans l'école de jeux vidéo OXO à Narbonne. Axiel Cazeneuve, auteur, théoricienne, militante, pratiquante de jeux de rôle grandeur nature, ou GN. Son travail en lien avec le GN porte sur les questions d'accessibilité et d'inclusivité, les dynamiques communautaires, la justice intracommunautaire. Louise Chamagne, dite Cthouloulou, meneuse de jeux, autrice de jeux de rôle, créatrice et animatrice de Murder Parties. Wookiste à plein temps, elle a à cœur de proposer des expériences garantissant la sécurité de chacun chacune. Et enfin, Lolvé Pérégrin-Lacave, artiste, auteur et performeuse, handi-queer versé dans l'art-thérapie, y elle écrit des jeux de rôle, notamment Grandeur Nature, qui font du bien à celles qui les jouent, centrés sur des thématiques rarement mises en avant, de communauté, de trauma et de guérison.
Je m'appelle Elisabeth et je suis bénévole pour le festival Girls Don't Cry et avec Solène ici présente, qui est aussi bénévole, on a organisé cette table ronde. Le titre de la table ronde, c'est « Les cultures geeks et les utopies queer, inclusivité et futur désirable dans les cultures de l'imaginaire ».
Effectivement, donc déjà, on vous remercie encore une fois de vous être tous prêtés au jeu, nos chers intervenants et intervenantes. Et du coup, la première question est pour toi, Lolvé.
En effet.
Lolvé, tu écris et tu organises des jeux de rôle grandeur nature, d'IGN. Et donc déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le GN ? Et ensuite, quels sont les constats que tu fais et ton approche en matière d'inclusivité dans le GN ?
Bonjour tout le monde. Je suis très nerveux, donc je vais lire mes notes. Salut ! Le GN... C'est du jeu de rôle où on incarne nos personnages physiquement, que ce soit dans un château, dans une forêt, dans une salle communale ou derrière l'écran de son ordinateur en visio. Ça peut se faire parfois tout seul, mais souvent à plusieurs. Ces jeux de rôle grandeur nature, appelés Live Action Roleplay Games, ou LARP en anglais, prennent place dans des univers parfois fictifs, parfois inspirés du réel. Le GN, c'est entre le théâtre d'improvisation, la co-création et un peu la magie. C'est large, c'est divers, c'est souvent dur à résumer. L'inclusion aussi, d'ailleurs. J'ai récemment assisté à une conférence d'une géaniste très sourde qui disait comment les organisatrices pouvaient l'impliquer ou l'avaient impliqué auparavant dans des grandeurs nature. Et lors du même week-end, j'ai fait une table ronde sur comment on pouvait impliquer et intégrer les personnes qui étaient en grande précarité financière. Ce même week-end, il y a une conférence sur comment on pouvait inclure les nouvelles personnes dans notre hobby. Parce que c'est pas facile d'arriver quelque part sans connaître. Donc le milieu est très vaste, il se divise en plusieurs scènes, et toutes ne sont pas aussi inclusives les unes que les autres. Mais celles qui ont la volonté d'inclure font des efforts en matière d'accessibilité. L'accessibilité, elle se divise, elle peut être matérielle, rendre ton GN accessible au niveau du prix, pour que les gens qui n'ont pas beaucoup de sous puissent venir. Logistique, être sûr que ton local soit accessible aux personnes selon leur handicap, et là encore c'est très divers, mais au niveau des transports, du temps à occuper, des lieux, du médium, mais aussi d'accessibilité narrative dans l'écriture des personnages. On n'a pas tous envie de jouer une personne qui est hétéro, ou valide, ou riche, etc., etc. Sachant qu'il faut bien comprendre, en matière d'inclusivité, il y a un fait, c'est une question de choix. On ne peut pas inclure tout le monde, mais on peut essayer de faire au mieux.
Du coup, moi j'ai une question pour Do. Tu enseignes dans une école de jeux vidéo et on se demandait comment ton approche de l'inclusivité et des enjeux de représentation s'exprime dans ton enseignement.
Déjà, ça passe par, quand je vois une journée, la dernière journée type que j'ai passée, j'essaie de savoir déjà comment se sentent les gens, les gentes. Petite météo, pour savoir un petit peu aussi comment ils peuvent produire et quel va être leur degré d'écoute. Ensuite, c'est tout récent, donc c'est vrai que c'est hyper bien qu'on en parle aujourd'hui, parce que du coup, c'était un peu le démarrage, vu que c'est le deuxième cours que je leur donne. Et en fait, j'ai abordé tout simplement tout ce qui est stéréotype, puisque je travaille en binôme avec une autre professeure qui est aussi qui est une personne non-binaire. Du coup, on a à cœur de faire avancer un peu ces questionnements et de travailler là-dessus. Du coup, on a tout de suite, en fait, travaillé là-dessus. Donc, elle leur a donné une série de mots, la force, la virilité, ce genre de choses, très, très marquées. Et elle leur a demandé des mood boards. Et moi, derrière, je suis venu débunker un peu ça en prenant chacun. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça prenne 2 heures. Et ça m'a pris 2 heures, je me rendais pas compte qu'effectivement, il y avait énormément de choses à débloquer. Je voyais un peu dans leur regard un certain intérêt, une curiosité. En fait, tout ça, l'idée, c'était, comme je leur ai dit, de sortir en fait, justement des stéréotypes. Par exemple, le terme jeunesse, on m'a représenté des enfants. Et je suis allé chercher, du coup, sur Internet, une des photos de femmes ou d'hommes âgés. Hyper fun, avec des lunettes énormes. Enfin voilà, on connaît des images comme ça de personnes âgées et qui restent quand même assez frais. J'aurais dit que la jeunesse, est-ce qu'effectivement c'est la jeunesse biologique ou est-ce que c'est la jeunesse en termes de fraîcheur et d'attitude et de... Enfin voilà. Donc du coup, ça permettait en fait de déplacer le curseur et tout ça, c'était là pour les aider à être plus créatifs en fait et même de surprendre les gens en tant que futures personnes qui travaillent dans le milieu du jeu vidéo. Donc ça leur permet un peu de débloquer, d'offrir de nouvelles choses et d'éviter en fait de rentrer dans des biais qui sont assez communs. Et puis sinon, beaucoup aussi, il y a la question de la domination aussi que je mets en avant. Après, c'est pas quelque chose que je traite forcément en profondeur, mais dans les attitudes en fait de la classe, j'essaie de leur faire comprendre que même moi, en tant que professeur, je suis une personne qui leur enseigne des choses que je connais et que j'ai à ma connaissance en tout cas donc et que ils et elles peuvent intervenir si jamais ils ont une information supplémentaire à donner. Je suis pas là en positionnement de personne ultra avec un ultra savoir. Le savoir est extensible donc voilà, donc on peut toujours donc l'idée c'était vraiment de leur faire comprendre que aussi bien entre eux et moi, et le et moi, et entre toutes les personnes de la classe, il y a la possibilité justement d'échanger et d'évoluer ensemble plutôt que de se positionner et de voilà. Donc, et comme ça va être effectivement assez, je pense, crucial plus tard, ce qu'on sait, je ne sais pas si vous avez effectivement entendu parler des divers problèmes qu'il y a eu, qui ont été soulevés dans diverses sociétés de jeux vidéo. Du coup, ça permet effectivement d'aider à éviter ce genre de reproduction pour plus tard. Voilà.
Merci Lolvé et Do d'avoir touché du doigt ces thématiques d'inclusion, d'inclusivité. Louise, toi, tu as écrit et publié un scénario de jeu de rôle intitulé « Le silence de Gréchor ». Et ce scénario, il a été qualifié d'un brin féministe dans un magazine connu autour du jeu de rôle. D'abord, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un scénario de JDR, donc jeu de rôle ? Et d'après toi, pourquoi ton scénario a-t-il été qualifié d'un brin féministe ?
Alors, un scénario de jeu de rôle, c'est le texte qui va développer en fait toute la trame narrative qui va permettre à un groupe de joueuses de jouer le jeu de rôle en question. Donc, c'est le texte, la trame qui permet de développer toute l'aventure. Donc, il y a une partie d'histoire, une partie de fiction et une partie d'explication pour les personnes autour de la table sur comment peut se dérouler l'aventure, sachant que le jeu de rôle, comme le disait Lolvé par rapport au jeu de rôle grandeur nature, c'est toujours très vaste, très large, et donc il n'y a aucune obligation. Hein, on n'a pas, quand on décrit une trame de jeu de rôle, il n'y a rien de fermé, puisque c'est le principe du jeu de rôle, c'est que tout est toujours très ouvert, et finalement, les limites, c'est l'imagination des personnes autour de la table. Mais en tout cas, la trame, le texte que j'ai écrit, donc, propose une histoire et une ou plusieurs manières de potentiellement jouer cette aventure. Et il a effectivement été qualifié d'un brin féministe dans un magazine de jeux de rôle. C'est un magazine assez connu en France, hein, d'une des grandes maisons de jeux de rôle françaises, mais qui est quand même majoritairement masculine. Et aujourd'hui, le jeu de rôle est quand même encore aujourd'hui majoritairement représenté par des hommes blancs, cisgenres et hétérosexuels, bien que, heureusement, le jeu de rôle inclusif et féministe prospère de plus en plus, surtout depuis ces dernières années. Mais on a encore ces représentations-là, et au sein même du jeu de rôle, on a encore des représentations dans les imaginaires collectifs, des représentations un petit peu médiévales, masculines et virilistes, parfois même. Et moi, quand j'ai écrit mon scénario, en tout cas, je n'avais pas particulièrement l'intention d'écrire quelque chose de féministe au sens militant du terme, en tout cas sur le fond. Je me considère comme féministe et militante, donc forcément quand on écrit quelque chose on met toujours d'une part de ce qu'on est, donc peut-être que la personne y a retrouvé quelque chose d'un brin féministe dans mon écriture, mais sur le fond ce n'était pas forcément mon intention de faire quelque chose. En revanche, sur la forme, et ça c'était pour le coup un choix vraiment politique, hein, puisqu'il y a des choix qu'on fait dans l'écriture qui restent politiques, en tout cas quand on fait des choix conscients quand on écrit quelque chose, et il y a souvent des choix politiques, et j'ai écrit mon scénario au féminin, j'ai tout genré au féminin, donc ça a certainement joué dans la perception de cette personne pour qualifier le scénario d'un brin féministe, bien qu'après sur le fond l'histoire ne présente pas particulièrement d'aspect féministe, si ce n'est que oui, il sort des codes un petit peu habituels qu'on retrouve dans le jeu de rôle et qui sont des codes un petit peu virilistes. Je pense pas que ce soit forcément les codes qu'on retrouve dans ce qu'on écrit ici avec les personnes autour de la table, mais dans les jeux de rôle mainstream, en tout cas, il y a encore beaucoup de ces codes aujourd'hui et de ces clichés. Et c'est vrai que j'ai essayé un petit peu de m'en détacher dans l'écriture, et je pense que c'est ça qui a joué en fait dans cette qualification-là.
Oui, et puis ton scénario, en fait, les émotions ont une place très importante. De ce que j'ai compris, tu portes en général une attention particulière à ce qu'on qualifie de sécurité émotionnelle. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, en effet, le jeu de rôle, hein, comme encore une fois, comme le jeu de rôle grandeur nature, se différencie des jeux de plateau, puisque les personnes autour de la table vont y incarner des personnages, très souvent, et dans des univers fictifs créés pour le jeu. Et très souvent, forcément, quand on incarne un personnage, il y a un investissement émotionnel. Alors, il n'est pas obligatoire, bien évidemment. Ça, c'est toujours une affaire de consentement. On n'est pas obligé d'investir émotionnellement son personnage. Mais très souvent, en tout cas, moi, à titre personnel, quand je pratique le JDR, c'est important pour moi, en tout cas, que ça transpire émotionnellement. Et il y a ce phénomène en fait qui s'appelle le bleed, qui veut dire du coup saigner en anglais, et ce qu'on appelle le bleed en jeu de rôle, je crois qu'on dit ça en GN aussi.
Oui, tout à fait.
Voilà, le bleed in et le bleed out, c'est en fait la persistance des émotions des joueurs et des joueuses entre le jeu et le hors-jeu. Donc par exemple, il y a le bleed in pour des joueuses qui vont amener des émotions de leur vie réelle et les amener, ils vont transpirer dans leur personnage. Et à titre d'exemple, j'ai une joueuse récemment qui venait pour jouer une partie de jeu de rôle, qui avait passé une très mauvaise journée, qui était très en colère contre son patron et qui avait hâte de jouer le jeu pour pouvoir exprimer sa colère en jeu. Et à l'inverse, le bleed out, donc c'est quand des joueurs, des joueuses vont avoir leur personnage au cours de la partie, vont ressentir des émotions comme... très récemment, j'ai une joueuse dont le personnage a été un petit peu triste au cours de la partie, qui est restée triste encore un petit peu après la partie elle-même, puisqu'elle ressentait les émotions de son personnage qui, du coup, persistaient pour elle. Donc, tout ça peut être hyper fun, mais parfois hyper déconcertant, parce que ben, c'est pas rien, en fait, cette persistance émotionnelle, surtout quand on se crée des univers, on a tendance à vouloir se créer une bulle, parfois, quand on joue, quand on fait un jeu de rôle, on se crée une bulle dans un imaginaire collectif pour nous sortir de la réalité. Donc, c'est pas forcément évident que des émotions nous viennent de la réalité dans le jeu et inversement. Donc, la sécurité autour de ces émotions est très importante. Et il y a même des personnes, c'est des débats dans la communauté rôliste. Il y a des personnes pour qui le bleed est quelque chose qu'il faut absolument éviter, qui tiennent absolument à mettre des barrières et prendre de la distance vis-à-vis de leur personnage pour ne surtout pas amener de leurs émotions dans leur personnage, leurs émotions de la vie réelle dans leur personnage, et inversement, de ne surtout pas ressentir, elles et eux, ce que ressentent leurs personnages. Alors moi, bien sûr, c'est pas ma manière de jouer, comme je l'ai dit précédemment. Et en plus, effectivement, le jeu de rôle que j'ai écrit, le scénario que j'ai écrit, est très porté autour des émotions. Et il est fondamental, d'ailleurs, je l'écris au début du scénario, que le consentement des joueuses autour de la table soit respecté à ce niveau-là. Donc il y a plusieurs manières aujourd'hui de respecter la sécurité émotionnelle des joueuses. Une des manières les plus connues, c'est le principe de ce qu'on appelle les cartes X. C'est-à-dire que des personnes qui sont autour de la table vont pouvoir amener cette carte à un moment ou faire signe aux autres personnes autour de la table à n'importe quel moment, quand elles ne sont pas à l'aise avec des sujets traités, par exemple, que les émotions ressenties ne leur conviennent pas ou que c'est trop dur, tout simplement. Et c'est des choses aussi que l'on peut faire en amont, hein, quand on s'apprête à faire une partie de jeu de rôle, hein, que l'on soit meneuse ou joueuse, de discuter en amont avec les personnes autour de la table en parlant de l'univers dans lequel on va évoluer, de si l'univers convient à tout le monde et des thématiques qui doivent absolument être évitées. Donc en soi, ça peut être absolument incroyable quand on évolue dans des imaginaires qu'on construit ensemble pour s'imaginer justement des futurs désirables dont c'est le sujet aujourd'hui, mais il est toujours fondamental de s'assurer du consentement de chacun chacune autour de la table. Et de la volonté, justement, d'avoir une persistance ou non des émotions entre le jeu et le hors-jeu.
Merci, Louise. Alors, Louise vient de nous parler de sécurité émotionnelle dans le jeu. Et toi, Axiel, tu t'es intéressée à comment le jeu, et notamment le jeu Grandeur Nature, peuvent nous aider à penser et à agir différemment. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet ?
Eh bien oui.
Super.
Donc déjà j'avais envie de rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire sur les émotions, parce que effectivement c'est quelque chose qui est très mis en avant et ça m'a un peu amusé de voir que la conférence dont tu parlais, l'Olvé, au début où il y a eu plusieurs interventions sur l'accessibilité et tout ça, avait pour thème les émotions. L'an dernier il y a eu le concours de un petit scénario de jeu de rôle qui est alors concours non compétitif, mais bon, en tout cas une invitation à créer des jeux dont le thème était également émotion, donc on voit que c'est vraiment très, très central, on va dire, ou actuellement peut-être. Donc comment est-ce que le jeu et le GN peuvent nous aider à penser et à agir différemment ? Pour moi, il y a plusieurs aspects. D'une part, il y a des choses qui sont liées à la fiction elle-même, c'est-à-dire qu'en fait, un jeu, ça va être une fiction, qu'elle soit plus ou moins inspirée du réel. En tout cas, il y a cette dimension fictionnelle qui va rentrer en jeu. Et la fiction en tant que telle, c'est quelque chose qui peut nous permettre d'explorer des alternatives. Donc, soit en termes effectivement de futur désirable ou non désirable. Ça peut être aussi de la dystopie ou n'importe quelle autre façon en fait d'imaginer les choses différemment. Pour moi, dans le jeu, notamment dans le jeu, mais dans les fictions en général, il y a beaucoup ce « et si ». C'est-à-dire qu'on va prendre un cadre et on va dire « bon voilà, on va prendre tel contexte social, historique, ce que vous voulez, y compris entièrement fictif, même si bon, entièrement fictif, bon voilà, on s'appuie quand même toujours sur des choses ». Et on va se dire, bon, et si y avait ça ? Par exemple, en jeu de rôle, on va prendre un cadre et on va se dire, et si on mettait tel personnage qui a tels enjeux là-dedans ? Et on voit ce personnage, en fait, évoluer. Et donc, ça, c'est une dimension de la fiction qu'on retrouve en littérature, qu'on trouve dans le cinéma, dans tous les types de fiction, en fait, d'explorer des alternatives, en fait. Sur cette mention-là et sur des points plus politique, pour moi, ça permet aussi de rendre des futurs désirables, justement. C'est-à-dire que quand on est dans le militantisme et dans la lutte, on est beaucoup en train de lutter contre, parce que c'est compliqué de lutter pour quelque chose, parce qu'on sait que ce pour, il ne pourra pas advenir comme on l'a entendu. En tout cas, on ne peut pas avoir quelque chose qui va être texto, je charge le logiciel Utopie de demain, quoi. Mais du coup, il peut y avoir un truc très décourageant dans la lutte et quelque chose de... une difficulté à en fait se projeter et donc à imaginer qu'on puisse être après. En fait, on est un peu souvent un petit peu enfermé dans ce moment présent de la lutte. Et pour moi, la fiction va avoir ce rôle-là en fait de permettre d'aller au-delà, de dire bon ben imaginons on a gagné sur tel ou tel point. Qu'est-ce qu'on peut imaginer différemment? Et là-dedans, le jeu, il a une dimension supplémentaire, sans qu'il y ait l'histoire de hiérarchie, mais ce qui est que le jeu, on est acteur, on fait quelque chose, en fait. Quand on joue, on prend part à la fiction activement, et donc ça va avoir des effets différents, et donc, en tout cas, un peu additionnels à la fiction en tant que telle. Donc déjà, il y a la question de... le jeu peut nous permettre de se sentir empuissancé pour agir différemment. Ça peut être parce que, par exemple, on a joué un personnage qui, en fait, se sent hyper sûr de soi, par exemple. Et donc, du coup, ben, peut-être dans la vraie vie, entre guillemets, dans la vie ordinaire, on va se dire, OK, d'accord, peut-être que je peux essayer les choses différemment. Ou on va avoir créé des liens forts avec des personnes. On va se dire, non, mais en fait, peut-être que c'est possible de continuer à avoir des liens forts avec ces personnes ou de créer des liens avec des gens dans la vie ordinaire. Donc, en fait, voilà, un peu gagner ce truc-là d'empuissancement, de sentiment de puissance sur notre vie par le biais de la fiction du jeu, où en fait, on va pouvoir se permettre des choses qu'on ne se permet pas forcément ou simplement avoir accès à d'autres options, quoi. Ensuite, il y a la question... Toujours sur ce truc-là de penser, agir, il y a un truc un petit peu de développement personnel aussi, hein, c'est qu'en fait, le jeu va nous permettre de jouer dans un cadre sécurisant. Alors, pas sécurisé, parce que je ne crois pas au cadre sécurisé, mais en tout cas, on va se sentir un peu plus à l'aise que dans la vie quotidienne, va nous permettre d'essayer des trucs. Lolvé, bah, toi, tes jeux, il y a beaucoup cette dimension-là sur le jeu transformatif. Peut-être... je te laisserai répondre après, mais voilà, de ce truc-là... Bah, forcément, sur les trucs de genre et sexualité notamment, un jeu de rôle, ça peut aussi être un très bon moment de se dire, bon, est-ce que j'ai pas envie de tester de nouveaux pronoms? Est-ce que j'ai envie d'interagir d'une façon différemment genrée? Est-ce que j'ai envie d'explorer ces aspects-là de moi d'une façon qui va être non dangereuse parce qu'on peut, se rétracter, entre guillemets. On a l'alibi aussi de dire, non, mais en fait, c'est dans le jeu. Enfin bon, pour plein de raisons. Et ensuite, et ça c'est la dimension qui pour moi est la plus importante mais aussi la plus difficile à mener, le jeu, en tout cas dans la façon dont j'ai envie de le concevoir, c'est quelque chose qui peut nous encourager à créer des solidarités à l'extérieur du jeu. Parce que cette idée que le jeu c'est une bulle, c'est très important effectivement. Le jeu ça va être une réalité temporaire, ça va être quelque chose dans lequel on va rentrer et où en fait on a le droit de ne pas être... qui et comment et pourquoi on est dans la vie quotidienne, quoi. Mais en fait, il y a des interactions, bien sûr, avec la réalité ordinaire. Et dans ces interactions-là, il va se passer plein de choses intéressantes. Du point de vue des émotions, certes, mais aussi du point de vue de qu'est-ce qu'on va faire avec ce cadre. Par exemple, est-ce que le cadre, il va avoir des dimensions d'accessibilité qui vont nous permettre de nous poser la question de l'accessibilité de la vie quotidienne? Sur des trucs très, très logistiques comme ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a vraiment un sens. Ou encore, on va traiter de tels sujets en jeu et on va faire ça en ayant des contacts avec des associations qui militent sur le terrain pour tel sujet, par exemple. En tout cas, avoir se souvenir et faire usage de la porosité qui existe entre la fiction du jeu et la réalité ordinaire quotidienne.
Merci. Et par rapport au sens politique du jeu, en fait, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais ajouter? Qu'est-ce qu'on peut explorer politiquement via le jeu? Qu'est-ce qui existe?
Pour moi, il y a deux écueils. C'est de dire que le jeu n'est pas politique et de dire que le jeu est politique. C'est-à-dire qu'en fait, pour comprendre en quoi le jeu peut être ou ne pas être politique, il faut savoir en fait concrètement ce que fait le jeu. Comment est-ce qu'il agit? Qu'est-ce que c'est, quoi? Et je vais forcément un petit peu me répéter, mais il y a cette idée de le jeu, c'est un espace qui va être construit comme séparé, dans lequel on va reconfigurer certaines des règles qui régissent la vie quotidienne, soit un maximum, soit juste quelques points. Et en tant que cet espace séparé, ça va nourrir la réalité ordinaire quand on va y retourner derrière. Ça peut être des concepts comme l'hétérotopie chez Foucault qui peut parler à des gens, ou le concept justement de réalité ordinaire et province de sens, auquel moi je fais pas mal référence, qui est par les sociologues Peter Berger et Thomas Lockman. Bon, bref. Et donc, il y a cette idée d'une province de sens, c'est un endroit dans lequel on va aller une petite bulle, enfin, un endroit mental, un endroit interactionnel, enfin, en tout cas, voilà, qui ne va pas correspondre à ce qu'on appelle la réalité dans la majorité du temps. Ça peut être plein de choses, ça peut être un jeu, ça peut être une fiction, ça peut être aussi aller... partager, bah, par exemple, on va pouvoir dire qu'un concert, c'est aussi en quelque sorte une province de sens parce que ça reconfigure certaines. C'est un espace qui va se comporter, fonctionner un peu différemment de la façon dont on interagit un peu au quotidien. Et donc voilà, donc, il y a ce truc-là de le jeu, il peut nourrir la réalité en venant être une province de sens. Et c'est en comprenant ce truc-là qu'on va pouvoir en fait agir de façon politique ou pas. Et donc considérer, qu'est-ce que j'ai dit, considérer que le jeu, il existe en dialogue avec le réel des luttes et donc pas l'arrêter au jeu. Pour moi, il y a quelque chose que j'ai tendance sur lequel j'ai tendance à avoir un petit peu une vigilance, c'est que dans le jeu de rôle Grandeur Nature, il y a pas mal de scènes, comme a dit Lolvé, en fait, d'espaces de jeu ou de culture de jeu, de culture ludique, qui vont avoir des questionnements sur des luttes sociales, qui vont avoir une mise en scène, par exemple, de moments historiques ou de luttes qui existent, ou en tout cas de réalités de personnes qui sont souvent pas nous, en tout cas, c'est pas notre réalité ordinaire, ou ça peut, hein, par ailleurs, ça peut être notre réalité aussi à nous, en tant que personnes concernées par une oppression, voilà. Et... j'ai une petite vigilance parce qu'il faut pas se contenter de se dire j'ai fait ce jeu, j'ai joué ce jeu ou même j'ai écrit ce jeu et donc j'ai compris des trucs et donc quelque part ça y est je sors de là, je suis plus grand, j'ai mieux compris, voilà. Pour moi, il y a un point qui est vraiment nécessaire, c'est est-ce que après ça nous amène à l'action. Le jeu, il a du sens si en sortant de là on fait putain, j'ai compris des trucs. Ok, bon, ben en fait, là, je vais pouvoir me renseigner sur le sujet davantage, aller en parler avec des gens, aller contacter des assos ou des collectifs pour travailler avec. Enfin bon, en tout cas, utiliser les ressources réelles pour faire avancer les choses que le jeu a pu nous amener, auxquelles on n'était peut-être pas sensibilisés jusque-là.
Vas-y. J'ai envie d'intervenir. Il y a 2 ans, à une conférence de jeux de rôle Grandeur Nature, qui au passage est extrêmement chère et pas très accessible à aller, toi-même tu sais. Un de mes amis a fait une première conférence sur qui s'appelait Mind the Gap. Il est londonien. Mind the Gap, accessibility for LARPers from a background of poverty. Donc attention à la marche. Comment rendre accessible le jeu de rôle Grandeur Nature aux géanistes pauvres. Et donc il a expliqué plein de choses que j'ai repris dans ma propre conférence, qui était dans un lieu un peu plus accessible que la première conférence susnommée, que je n'ai pas nommée d'ailleurs. On va pas throw the shade à quelqu'un, ça va le faire. Et en fait, au sortir, une des questions qui avait été abordée était « Ah, on devrait faire des jeux de rôle sur la pauvreté pour que les géanistes riches se rendent compte qu'il y a des gens pauvres. » Et j'étais « Ah oui, très bien, ça va nous coûter combien en fait ?» Parce que si c'est un géan à 600 €, ben les personnes pauvres, déjà, elles n'ont pas envie de jouer des pauvres. Et surtout, si c'est pour faire du miserability LARP, genre un géan sur la pauvreté où tu n'inclus pas des personnes pauvres, ni dans le cast, ni dans le crew, ni dans l'écriture, ben en fait, vous allez juste faire votre truc entre vous. Et ça va rien ressortir, quoi. Vous n'allez pas réfléchir, vous allez juste vous dire « Ah, on a bien mis le projecteur sur ce sujet, maintenant on peut repartir faire nos GN super chers dans notre coin. »
Et voilà, et donc ça s'appelle le cringe, voilà.
Oui.
Ouais, et justement pour un exemple de GN bon, qui date un peu, mais qui pour moi est très... bon. Un exemple intéressant, on va dire, et j'ai pu discuter avec les personnes qui l'ont créé, donc forcément, je l'ai un peu plus en tête. C'est un GN finno-palestinien qui s'appelle Halat Hissa, qui a eu lieu en 2013, puis en 2016 ensuite, parce qu'il a pu être financé par un fonds culturel, parce que figurez-vous qu'en Finlande, on peut financer des jeux avec des fonds culturels, c'est incroyable. Bon, et donc c'est un GN qui a été écrit par 2 personnes de Palestine et 2 personnes de Finlande sur l'occupation. Et la façon dont ils ont décidé de traiter ça, c'était en créant une analogie, c'est-à-dire de se dire on va pas du tout avoir des Finlandais qui vont jouer des Palestiniens parce que ça n'aurait pas de sens, ça serait du tourisme de misérabilistes et en plus ça permettrait pas de comprendre les choses. Donc en fait ils ont créé une espèce de dystopie dans lequel les relations nord-sud sont inversées et dans lequel la Finlande est sous occupation russe. Et ils ont fait jouer des joueurs et joueuses palestiniennes jouer les occidentaux bien-pensants, on va dire, jouer les journalistes, les ONG, enfin voilà, pendant que les Finlandais, du coup, jouaient les occupés. Et les Finlandais, d'autres Finlandais jouaient également les occupants, mais c'était un truc beaucoup plus... de figuration, entre guillemets. Mais vu que tout le monde a fait le service militaire en Finlande, il y avait plein de gens avec des costumes militaires sympas. Et la façon dont ils ont fait ce jeu, déjà, c'était d'avoir une répartition des rôles entre les Palestiniens et les Finlandais, qui étaient de l'ordre de... En fait, les Finlandais ont beaucoup géré la logistique et trouver la thune, gérer la thune et rendre possible la création des deux Palestiniennes qui ont fait le jeu. Donc avoir un rôle qui, pour moi, est hyper important. Voilà. Premier truc qu'on peut faire, c'est gérer la matérialité en fait des choses, et pour permettre bien sûr l'accès aux personnes venant jouer de Palestine. Le jeu, il n'était pas payant pareil pour tout le monde, et il y a eu de l'argent qui a été fait pour permettre aux personnes de venir de Palestine jusqu'en Finlande, parce que ça a été joué en Finlande. Et donc voilà, avoir une vision d'ensemble en fait sur ce. Il suffit pas de dire on va jouer quelque chose qui va parler de ça, mais se dire donc comment est-ce qu'on peut en parler correctement, à la fois avec un ancrage social, avec un ancrage logistique, comme tu disais, Lolvé, et toutes ces choses-là qui peuvent faire que à la fin il y a eu une création de solidarité réelle, puisque les gens, ils ont interagi pour de vrai. Il y a eu des choses qui ont été mises en place avec des associations palestiniennes. Enfin, il y a plein de choses qui ont été mises en place pour faire en sorte que ça ne soit pas juste du tourisme misérabiliste, justement.
Merci, Axiel. Tu as tendu une perche à Lolvé que je ressaisis au passage. Lolvé, tu t'inscris dans le mouvement pour le jeu transformatif. Donc, est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, moi, je fais partie du mouvement pour le jeu de rôle, particulièrement le jeu de rôle grandeur nature transformatif, c'est-à-dire jouer... écrire, designer pour la transformation. J'ai traduit le papier théorique, le Butterfly Effect Manifesto, en français. Et donc, plutôt que de vous faire une paraphrase, je vais vous lire quelques-uns des principes généraux de ce Butterfly Effect Manifesto, qui est accessible sur Internet, sur la page d'Electro-GN, sous le nom de Manifeste de l'effet papillon, parce que la traduction, c'était simple, pour une fois. Donc... nous croyons au pouvoir du GN comme outil pour la transformation, mais aussi la conscience de soi, l'empathie et la maturation. Nous utilisons activement et intentionnellement nos expériences de GN pour cultiver ces traits. De la même façon que lors de la transformation de la chenille en papillon, changer et se transformer peut s'avérer douloureux et difficile, mais en fin de compte, gratifiant. Même s'il est parfois pénible et désordonné, le processus de transformation peut amener des résultats constituants de véritables tournants dans l'existence si les participantes s'accordent à elles-mêmes et aux autres de la bienveillance tout au long du chemin. Nous croyons que même la plus petite expérience de GN peut avoir des effets retentissants sur la conscience individuelle et collective des humains. Un nombre considérable de personnes ont déjà partagé de quelle façon des expériences de GN les ont aidées à grandir, comme tu l'as dit, Axiel, parfois à gagner la confiance en soi, à se sentir empuissancées. Donc, un nombre considérable de personnes ont déjà partagé de quelle façon des expériences de GN les ont aidées à grandir sur le plan personnel, ou à s'engager davantage auprès de leur communauté. Nous choisissons d'amplifier et de mettre ces impacts à l'honneur plutôt que de penser qu'ils sont secondaires ou le fruit d'un heureux hasard. Le monde est trop souvent un endroit sombre, déshumanisant et démoralisant. Parce que nous croyons que ces petites expériences peuvent avoir de profonds retentissements, nous sentons qu'il est de notre devoir en tant que joueuses, créatrices, organisatrices, théoriciennes, chercheuses et archivistes, d'amplifier ces impacts transformatifs pour la transformation dans le but de rendre le monde et la vie des gens un tout petit peu plus lumineuse. Donc on revient sur cette idée de futur désirable et comment en fait des expériences de GN vécues, que ce soit en tant que joueuse ou en tant que participante, organisatrice, bénévole, peuvent permettre de s'organiser et, comme tu as dit, Axiel, de créer de la solidarité au sein de sa communauté. En fait, c'est prendre ce qu'on a fait ensemble et remettre en place, réinventer, réimaginer et travailler autour de ça, en fait. Donc, rendre le futur désirable, quoi. Que ça ne soit pas juste une parenthèse enchantée, juste une bulle, et qu'il y ait un effet, une action directe ou concrète sur notre réalité quotidienne.
Merci, Lolvé. On va revenir aux jeux vidéo. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes créations en termes de jeux vidéo, de jeux vidéo qui t'inspirent en termes de futurs désirables, pardon.
Bien sûr. Est-ce que je peux me permettre de rebondir un peu sur...
Oui, tout ce que tout à fait rebondir, en réalité, bien sûr.
Tu disais effectivement revenir aux jeux vidéo, mais toutes les thématiques, tout ce qui a été dit peut largement en fait, être employé, enfin, est employé en fait, dans le jeu vidéo. Quand on parle effectivement aussi de... Pareil, je reprends l'exemple des élèves et ce que je leur dis concrètement, à partir du moment où ils travaillent sur un projet... L'idée, c'est de se dire qu'en réalité, ils vont avoir un véritable impact en fait, sur les gens. Plus tard, ils ne s'en rendent pas compte, parce que peut-être pas en tout cas. Mais quoi qu'ils créent, en fait, ça va laisser une trace. En fait. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de comprendre quelle trace on veut laisser en fait, aux gens, vers où en fait, est-ce qu'on veut du coup, les emmener vers quelque chose. Tu parlais de bleed in et de bleed out. Est-ce qu'effectivement, on veut les sortir de quelque chose ou les faire entrer dans un état pour peut-être aussi en sortir et comprendre les choses. Il y avait un jeu qui était sorti où il y a des psychologues qui ont travaillé dessus, je ne me souviens plus du nom, où on joue le rôle d'une femme justement qui a un trouble justement et on entend des voix. Et ça a été hyper étudié avec des personnes justement qui connaissent cette maladie. Donc l'idée pour reprendre cet exemple concret, je leur ai dit, voilà, quand ils créaient un personnage, je leur ai dit, votre personnage, là, la façon dont il va être habillé, sa posture, son corps, tout ce qu'il représente, en fait, les objets qu'il aura sur lui, ça dit quelque chose. Donc avant de créer un personnage, pensez, en fait, essayez de réfléchir, créez lui une origin story. D'où il vient, quelles sont ses problématiques, quels sont ses traumas. Du coup, est-ce qu'il est plutôt du genre à rester dans ses traumas, qu'est-ce qu'il va utiliser pour en sortir. Je prenais des exemples vraiment de la culture geek, en leur parlant de Anakin Skywalker, en parlant de Batman, par exemple, en disant que Batman, par exemple, moi, c'est un personnage, quand j'étais plus jeune, j'adorais. Et en fait, aujourd'hui, je le trouve complètement stupide parce que j'ai envie de lui dire « fais une thérapie, en fait ». Parce que, ok, c'est vrai que c'est un choc de perdre ses parents, mais de tourner en boucle et de se dire, je vais mettre un masque. Ok, on met un masque, on va combattre des méchants, mais à un moment donné, pour lui-même, il faut à un moment donné trouver un équilibre, quoi. Donc, voilà. Donc lui, pareil, Anakin Skywalker, en vérité, c'est un enfant encore, même en tant que Dark Vador, il est l'enfant de Palpatine qui lui dit, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et lui, il est là, donc il est hyper impressionnant de prime abord, mais quand on y réfléchit, en réalité, c'est un enfant. Et c'est tous ces personnages un peu qu'on montre un peu puissants qui, en réalité, sont hyper... qui devraient plus embrasser, justement, leur faiblesse. Et comme je disais à mes élèves, les traumas, pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on en fait. On sait qu'on a ça, qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Et on reprend, justement, cette idée de sécurité aussi émotionnelle, à savoir, est-ce que la sécurité émotionnelle, c'est se cacher derrière, justement, des choses un peu violentes ou des choses très, très basées sur le virilisme ou autre. Ou est-ce que, tout simplement, on se dit, OK, bon, ben, j'accepte ça et j'avance en fonction de cette réalité, en fait. Donc, dit comme ça, on peut se dire, mais en fait, on joue à des jeux vidéo, on va pas se prendre la tête là-dessus. Mais en fait, si, parce que ça, effectivement, comme je disais, ça laisse une trace. C'est du temps que l'on accorde, en fait, de soi, en fait, le temps... Il est mesuré dans le travail par l'argent, mais il a une valeur bien plus importante qui est en fait la valeur de ce que l'on fait de sa personne et comment on se projette en fait. Donc la projection, est-ce que la projection elle est financière? Est-ce qu'elle va être du coup à être avec d'autres personnes comme des gens le font dans des associations et qui ne sont pas extrêmement payés, mais il y a une richesse qui est en tout cas un apport qui est au-delà celui donc le jeu vidéo, je trouve aussi effectivement ça apporte ça. Et comme vous le disiez justement, il y a cette idée de qu'est-ce qui va se passer ensuite dans le réel, puisque tout est ancré en réalité. C'est pas juste c'est pour ça que je tiens à ce que les élèves réfléchissent à leur jeu vidéo, parce qu'il y a un impact, tout est ancré. Là, il y a un jeu, je me souviens plus comment, c'est sur la révolution en Iran. Et on joue un journaliste. Alors, c'est hyper dur. Le début, on commence, on est torturé. Donc voilà. Et ensuite, je crois qu'on a un retour en arrière où on prend des photos et en même temps, il y a des photos de révolution. On est parmi la foule. Enfin voilà, c'était hyper intéressant. Et c'est une personne concernée qui l'a fait, puisque c'est une personne dont les parents ont vécu en fait cette révolution. Et voilà, il tenait en fait à ce que. Et il n'y a pas uniquement des moments sombres, il y a ce moment effectivement très très dur au début de la torture, et après il y a vraiment ce truc où c'est la vie de tous les jours, voilà. Et ensuite il y a des moments de révolution où il prend des photos, donc c'était assez intéressant, et personnellement du coup ça m'a, bah, déjà j'étais en train d'en apprendre davantage, et voilà, et je trouve que le jeu vidéo va vraiment emmener dans ce genre de choses. Et pour revenir sur les choses émotionnelles, pareil, on peut aussi aller. Moi, j'aime beaucoup les jeux indépendants. Après, je vais arriver sur mes créations. J'aime beaucoup les jeux indépendants parce que du coup, on sort de ce qu'on appelle les jeux triple A, qui sont des jeux qui demandent à être vendus et qui, bah, typiquement, vont vraiment tourner en boucle avec un personnage très souvent masculin, très souvent imposant physiquement, qui va tirer un peu sur tout ce qui bouge. Bon, et du coup, l'idée, c'est que les jeux indépendants sont vraiment décalés un peu de ça, sont un peu sur d'autres phases. Je donnerai tout à l'heure des exemples de jeux, mais j'en ai un en tête qui s'appelle Benda, je crois, où on joue dans une famille indienne. Donc la mère est arrivée au Canada. Et le livre de cuisine a brûlé, en fait. Et du coup, elle réapprend, en fait, à créer de mémoire, il me semble, les recettes que sa mère lui a données. Et donc, du coup, ça donne lieu à des conversations, en fait, dans la famille, des échanges. Donc, il y a pas mal d'émotions. Et en même temps, il y a ces échanges où on apprend aussi à cuisiner de façon interactive, quoi. Donc, voilà. Donc après, dans le réel, j'imagine que très certainement, après, on a aussi envie de se mettre à cuisiner. Il y a plein de petits jeux comme ça qui émergent, mais en fait, en réalité, depuis beaucoup d'années. Et voilà. En tout cas, bon, pour venir en tout cas aux créations, il y a plusieurs années, j'avais commencé sur une plateforme qui s'appelait Multimédia Fusion. C'était un logiciel qui permet de créer des jeux vidéo où il y a ce qu'on appelle du WYSIWYG, What You See is What You Get. En fait, on appuie sur un bouton et du coup, il y a de la programmation derrière. Ça nous évite en fait de rentrer dans des codes pour les personnes qui peuvent avoir du mal. Et donc, en fait, j'avais eu l'idée de créer un jeu où en fait, on est à l'état gazeux, on est un nuage et on avance. Et dans le jeu, en fait, on ne perd jamais, on change d'état. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on perd son état gazeux, on devient liquide, et là, on se promène à l'état liquide, on avance dans le jeu, on continue à découvrir l'environnement, et on avance. Il y a un événement qui va faire qu'on va perdre cet état liquide, et on va revenir en vapeur, on va peut-être arriver au-dessus de la montagne, on va devenir en fait un personnage, un bonhomme de neige, voilà. Et ça tourne en boucle, en fait, et l'idée, c'est vraiment plus de se promener et voilà, de découvrir un peu, et puis de savoir, peut-être même découvrir, ah tiens, il se passe ça, c'est ça qui vient de me faire changer d'état, enfin voilà. Donc c'était un peu le jeu, parce que l'idée c'était de sortir de ce truc où, avec un objectif, voilà, en jeu vidéo, des fois on n'est pas obligé effectivement d'avoir des objectifs, on peut juste avoir envie de passer un bon moment, en fait, sans avoir justement ce stress et cette pensée d'objectif à atteindre, juste vivre et juste là, être là. Voilà, donc ça, c'est un peu, je l'ai commencé donc sur Multimédia Fusion et je l'ai repris sur un autre logiciel qui s'appelle GB Studio, qui permet de faire des jeux sur Game Boy. Voilà. Et l'autre jeu vidéo sur lequel je travaille, c'est un jeu vidéo où on incarne, bon, typiquement, il est inspiré librement de ma fille qui a 11 ans et qui, étant une fille métisse, avec les années qui passaient, elle revenait avec des problématiques que j'ai connues en tant que personne noire, et elle, en tant que personne métisse, sont quand même un peu différentes, mais il y avait des similitudes. Et du coup, j'ai eu cette idée de créer un jeu où, en fait, elle affronte, en fait, bah, des traumas qui arrivent, parce que On peut déjà parler de trauma à cet âge-là, parce qu'à un moment donné, pendant le confinement, ma fille, on était en train de faire du, on était en train de faire du rangement. Et donc, elle me dit « Ah, cette robe, je ne veux plus la mettre ». Et je lui dis « Ok ». Alors déjà, je sens qu'il y a un truc. Donc, je lui dis « Ah, ok, d'accord ». Donc, j'attends, je laisse un blanc. Et elle attendait un peu. Et donc, elle me répond, elle me dit « Voilà ». Et là, elle me raconte, elle me dit « Oui, parce que ça me rappelle un mauvais souvenir ». Donc, j'attends encore. Je lui dis « Ah oui, est-ce que tu veux en parler ?» Et là, elle me dit effectivement qu'à un moment, un jour, il y avait un garçon qui s'était mis sous sa jupe, la tête en dessous, pour regarder sa culotte. Et du coup, encore aujourd'hui, elle a 11 ans, et ben, elle met toujours des shorts en fait, sous ses jupes. En fait. Donc, tout ça pour dire que c'est voilà tout ça pour dire que je me suis ça fait partie de ces éléments qui m'ont un peu qui m'ont fait juste me dire tiens ce serait intéressant d'avoir justement ce jeu vidéo où il y a cette petite fille qui avance et qui combat ses traumas. Alors ce sera sur d'autres formes, des silhouettes voilà qui avancent et qui combat de façon on va dire mélanger le non pas le fun mais un environnement quand même assez apaisant à quelque chose qui va faire irruption et qui sera un peu inquiétant et qu'elle va pouvoir quand même passer facilement, en tout cas que le joueur va pouvoir ou la joueuse va pouvoir faire passer facilement et dans lequel cette personne va avancer. C'est encore à l'état de réflexion et de construction, donc voilà. Mais je trouvais ça intéressant pour justement parler d'empouvoirment. On peut effectivement jouer des jeux vidéo pour justement se donner de la force parce qu'en réalité, pour le cerveau, en fait, quand on dit quelque chose et quand on le fait, il n'y a quasiment pas de différence, en fait. Donc, si vous dites quelque chose et que si vous faites quelque chose, votre cerveau, sur la longueur, il ne fera pas la différence. Donc, pour un jeu vidéo, c'est encore plus fort. Du coup, d'où un peu la... Je terminerai là-dessus. Un jour, un truc qui m'a marqué, j'ai commencé à jouer à un jeu de Quantic Dream qui s'appelle Detroit Being Human. Où on joue en fait des androïdes et il y a un androïde, je parlerai juste de ce passage qui fait le ménage en fait chez un homme qui a la garde de sa fille, donc il est devant la télé. On peut dire que c'est cliché, mais en fait non, c'est pas cliché parce qu'en fait c'est quand même assez réel. Beaucoup de gens sont comme ça, avec à enchaîner des bières, à insulter sa fille, et on est une machine. Et donc du coup on joue cette machine et en fait on ne peut rien faire. Et on sent que du coup le jeu va nous laisser la possibilité à un moment donné d'agir. Et ça, c'est quand même un peu rassurant. Et du coup, on a envie d'y aller. Mais vraiment, on entend les coups qui sont donnés. Enfin, voilà. Donc, j'avoue que j'ai arrêté du coup de jouer parce que j'avais pas envie d'être mis dans cette position. Mais voilà. Je sais plus pourquoi je parlais de ça. Si quelqu'un peut me Parce que je parlais effectivement du réel, pardon. Oui, je parlais du réel et des jeux vidéo et de l'impact qu'il pouvait y avoir. Voilà.
Merci beaucoup, Do. J'aimerais rajouter quelque chose au sujet du jeu vidéo. Quand on a commencé à préparer cette table ronde avec Elisabeth, on a rencontré quelqu'un qui faisait des études autour du jeu vidéo et du genre dans un covoiturage. Et cette personne nous a expliqué que quand on parle de jeux vidéo queer, on peut parler de jeux vidéo queer par les personnages qu'on va rencontrer ou incarner, mais aussi, et c'est ce dont tu nous as beaucoup parlé, Do, le jeu vidéo queer, c'est aussi des mécaniques de jeu, des environnements apaisants, une déconstruction des codes où on a des objectifs, etc. Et voilà, je voulais apporter cette précision-là. Et j'en profite parce qu'on a quelques questions dans le public et notamment une qui nous demande le nom du jeu vidéo que tu as créé autour du cycle de l'eau. Donc tu pourras nous dire son nom, mais il sera aussi dans la bibliographie qui vous sera communiquée à la fin et que vous pourrez scanner ou recevoir par mail. Mais tu peux compléter.
Le jeu s'appelle DLO, D-L-O, ça veut dire l'eau en créole, voilà, tout simplement.
Merci beaucoup. On a reçu deux questions à l'écrit qui concernent plutôt le jeu Grandeur Nature. Je pense une qui rebondissait sur ta présentation, Lolvé. C'est quoi le médium dans le GN ? Et je te lance la question suivante au passage et vous pourrez compléter. Parce que je crois que tu as parlé de médium à un moment. Oui. Et la deuxième question, à laquelle tu pourras certainement répondre et probablement Axiel pourra rebondir et vous pourrez tous rebondir. Comment se traduit en pratique l'organisation d'un GN sur un futur désirable ?
Ouh. Je parle de médium parce qu'en fait,
Le gène, c'est médiatisé, c'est-à-dire qu'on peut le faire en face à face, comme j'ai dit, dans une forêt, une salle communale, un château, dans la rue, chez soi. Mais en fait, moi, j'ai pratiqué et écrit des gènes qui sont aussi derrière un ordinateur. Donc, il y a toute la question de comment on interagit, comment on intègre le média ordinateur, caméra ou téléphone, caméra, micro, à cette partie d'interprétation et comment on l'intègre dans l'immersion. C'est-à-dire que c'est pas pareil si tu seras d'accord avec moi, Axel, si on dit que on est aussi en jeu derrière un ordinateur que si on dit qu'en fait on est en face à face mais que hors jeu on est derrière un ordinateur. Parce que si on est supposé être dans une taverne où il y a un jeu comme ça, où on est censé être dans une taverne mais qu'on joue derrière nos ordinateurs, ça peut donner des moments. Je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit, monstre menaçant de la taverne, mais je suis sûre que. Est-ce que hors jeu, t'as un problème de micro ? Est-ce que tu peux monter le micro ? Est-ce que tu peux monter le son ? Ce qui peut être compliqué pour l'immersion, mais après, on peut toujours trouver des terrains d'entente autour de ça. L'immersion ne doit jamais venir, à mon sens, c'est mon point de vue, l'immersion ne doit pas être plus importante que le bien-être et que le bien-être des joueuses, que le consentement, que les émotions. L'immersion ne doit pas être plus importante que l'accessibilité au jeu, donc... Donc voilà, s'il y a un mauvais micro, eh ben, il faut composer avec. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question. Moi, c'est à ça que je pensais quand je parlais des différents médiums. Mais on peut aussi intégrer d'autres choses. Je pense, je peux continuer, j'ai encore le temps ou pas ?
Ouais, et si tu veux aussi répondre à la question suivante sur un GN autour d'un futur désirable, qu'est-ce que c'est ? Peut-être illustré, je ne sais pas. Ou si la personne veut compléter sa question d'ailleurs.
Je vais dire vite fait, il y a des GN qui intègrent particulièrement des... Par exemple, des extraits audio qu'on écoute, notamment, je pense au GN d'enquête qui s'appelle de Chaos League, qui s'appelle The Secret We Keep, mais également First I Came, qui est un jeu autour de je sais pas comment, Axel, aide-moi, tu connais pas First I Came, c'est pas grave, c'est un jeu de Chaos League sur où on joue des personnes opprimées sous le Troisième Reich, et en fait, on est dans un grenier. Et on entend des extraits audio des SS qui montent dans les appartements et qui découvrent nos affaires personnelles et qui découvrent que du coup on est impliqué dans la révolte ou des faux papiers ou des trucs comme ça. Et en fait, ce jeu, il faut décider soit les SS vont finir par arriver au grenier et nous trouver tous, soit il y a quelqu'un qui décide de se rendre. Et donc c'est un peu compliqué, mais c'est un jeu qui est basé. Soit on joue autour d'une table, les yeux bandés, et on écoute les extraits audio. Soit on joue dans le noir, derrière son ordinateur, avec d'autres personnes, et on écoute les extraits audio. Sachant qu'il y a aussi des flashbacks sur nos vies avant la montée du nazisme, tout simplement, et du fascisme. Voilà. Vas-y, Axel, sur les futurs désirables.
Voilà. Moi, je ne suis pas très doué en futurs désirables. Il me semble que c'est plutôt ton
prénom. Non, c'est pas grave, tu me redirigeras. Tu te redirigeras avec moi.
Non, mais simplement pour... comment est-ce qu'on organise un jeu j'ai envie de dire n'importe comment. C'est vrai que le GN a cela de plus difficile par rapport aux jeux de rôle dits sur table, même si maintenant il y a beaucoup de jeux de rôle par Discord par exemple, donc il n'y a plus que la table, qui est que vu qu'on essaie d'incarner physiquement, il va y avoir des limites supplémentaires, on ne peut pas un peu tout faire, alors que dans le jeu de rôle sur table, si on décide qu'il n'y a plus de mur, c'est pas grave, quoi. En tout cas, c'est des jeux qui sont davantage possibles. Je pense qu'au niveau de l'organisation, ça va vraiment dépendre de ce qu'on veut dire, comment on veut le dire, avec qui. Et en fait, il y a des jeux qui se durent un week-end où on va devoir louer un lieu, où on va devoir gérer la nourriture, on va devoir gérer tout un tas de choses matérielles, ou des jeux qui peuvent jouer quelques heures dans un salon, ou des jeux qui vont se passer sur Discord. Enfin bon, ça, c'est des choses qui sont hyper... hyper diverses, quoi. Je sais plus c'était quoi la question.
Ah oui, la question spécifiquement, c'était comment se traduit en pratique l'organisation d'un GN sur un futur désirable. Donc on peut l'interpréter un peu.
Je pense qu'il y a les questions de l'organisation sociale qui sont très importantes, dans le sens où il faut jamais Enfin, on peut le faire, mais bon, j'envisage. J'aimerais bien qu'on pense toujours la question du cadre du jeu. Et donc, quand on propose un jeu, de se demander ce qu'on est en train de proposer en termes de structure. Et par exemple, se dire qu'on va faire un jeu qui va avoir une structure horizontale où on abolit un petit peu la distinction entre les organisateurs, organisatrices et les joueurs, par exemple. Et donc ça, ça va déjà être créé quelque chose de l'ordre d'un futur désirable. C'est-à-dire de proposer des choses qui sont structurellement différentes de l'ordre d'une diminution de la hiérarchie, on ne peut jamais forcément trop l'abolir, mais en tout cas quelque chose de cet ordre-là. Donc ça peut être en instillant une structure qui est différente, qui va correspondre à nos idéaux politiques. Ça peut aussi simplement avoir ce truc-là de « et si ?» il n'y a plus de patriarcat, j'en sais rien. Bon, je pense qu'il va falloir travailler vraiment beaucoup de choses, donc ça fait un gros travail de documentation pour créer un GN comme ça. Mais bon, enfin voilà, en tout cas... faire habiter en fait un moment, un monde un peu différent, comme on peut trouver dans n'importe quel type de fiction par ailleurs, je pense.
On a reçu une autre question qu'on peut adresser un peu à tous, mais peut-être Louise, si tu veux, puisque ça parle de jeux de rôle d'aventure, alors peut-être que c'est pour toi. Comment le jeu de rôle d'aventure peut introduire des éléments queer autres que la romance?
Ben, en fait, je pense que la question est très bien, mais je pense que les réponses sont très, très, très larges parce que je pense que ça s'applique pas forcément au jeu de rôle d'aventure, mais quand on écrit un scénario qu'on veut jouer avec ses camarades, un jeu de rôle de table, donc autour d'une aventure, l'aventure n'a pas forcément à s'appliquer dans un univers qui répond aux codes un petit peu clichés qu'on imagine dans les jeux de rôle de medieval fantasy, des univers qui se rapprochent de celui de Tolkien, hein, qui a été finalement l'univers à partir duquel s'est créé le jeu de rôle Donjons et Dragons dans les années 70. Donc un jeu de rôle d'aventure, une histoire d'aventure, elle peut prendre place dans n'importe quel type d'univers. Et effectivement, on peut créer des histoires queer sans que ce soit effectivement forcément basé autour de la romance, mais plutôt de l'organisation. Parce que si l'aventure prend place dans le monde que l'on crée pour le jeu, les limites de ce monde, c'est l'imagination des joueuses autour de la table. Donc, la création de l'univers, les interactions entre les personnes, l'abolition des hiérarchies, par exemple, dont parlait Axiel, peuvent totalement prendre place dans l'imaginaire des joueurs et même dans un univers de medieval fantasy. On peut tout à fait imaginer un univers medfan de medieval fantasy avec une abolition complète de ce qu'on connaît du patriarcat, de ce qu'on connaît de la hiérarchie, des systèmes politiques en place, par exemple. Ça va bien au-delà de la romance. C'est vrai que on imagine une histoire avec une communauté, avec, je ne sais pas, au hasard, des humains, des elfes, des nains, etc. Et dedans, il y aurait des romances queer. Mais ça peut être effectivement bien, bien au-delà. On est tous ensemble autour de la table et on s'imagine évoluer dans un univers où le patriarcat est complètement aboli. Les règles de genre, les codes de genre sont ce que les personnes autour de la table décident. On peut abolir la binarité de genre autour de la table et faire une aventure avec que des personnages genderfuck ou je ne sais quoi. Enfin, on peut vraiment faire absolument ce qu'on veut. En fait, il n'y a vraiment pas de limite à l'imagination. Donc, après, ça dépend vraiment des personnes, de l'imagination des personnes. Pour moi, la réponse est un peu vaste, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question vraiment, du coup.
Merci. D'autres, tu veux compléter ?
Oui, tout à fait. Enfin, en réalité, de toute façon, les histoires... tout dépend de la personne, en fait, le mindset de la personne qui le crée. Donc, en fait, à qui on donne accès, effectivement, à la réalisation d'un scénario, à la production, à la réalisation d'un jeu vidéo. C'est pour ça qu'en fait, en réalité, après, je ne sais pas si comment les gens se sentent avec la création. Est-ce qu'ils se sentent plutôt être dans la création? Est-ce que c'est quelque chose qui émerge un peu? D'ailleurs, j'espère vraiment qu'après cette conversation, on pourra peut-être avoir des gens qui auront envie, après la table ronde, envie de créer des jeux grandeur nature sous différents formats. Je ne connaissais pas effectivement l'idée de créer un jeu et dans lequel on pourrait effectivement participer en étant derrière son ordinateur. C'est hyper intéressant. On peut imaginer effectivement que des gens qui ont une mobilité réduite et justement prennent plaisir justement à y participer. Pareil aussi pour le jeu vidéo, j'espère aussi que des gens se diront « Ah bah tiens, je peux peut-être essayer », parce que comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment plusieurs logiciels qui sont accessibles et qui permettent de créer du jeu vidéo. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, vraiment, ces futurs-là, ce futur en question, tant qu'il y aura une majorité de personnes justement dominantes, en tout cas en situation de domination, qui produiront, distribueront et autres, ben oui, on aura toujours ce type, on aura beaucoup plus de foisonnement à ce niveau-là. Alors que si plus de personnes concernées et qui ont déjà un mindset complètement différent et des envies différentes, comme je disais tout à l'heure, ce que l'on crée dans le jeu vidéo, c'est aussi l'intention. Quand tu parlais aussi, je reviens encore vraiment, je trouvais assez intéressant cette idée de blend in et bleed out. Qu'est-ce que l'on veut qu'est-ce que l'on veut transmettre? Voilà, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on veut donner aux autres au final, qu'est-ce qu'on veut se donner à soi à travers ce jeu vidéo ou ce grandeur nature, qu'est-ce que l'on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut pas vivre, ce sur quoi on veut discuter. Je reviens, on parlait de science-fiction, mais la SF en réalité, ce n'est que c'est un genre qui vient accélérer en fait une situation, le fameux what if, en disant voilà, et si effectivement telle chose existait, qu'est-ce que ça donnerait? Donc du coup voilà, aujourd'hui on est un peu, je te parlais tout à l'heure du film que j'ai vu hier, qui est un film d'animation de SF qui s'appelle Mars Express, où en fait le personnage ça parle de la colonisation sur Mars, et en fait tout le mindset, j'ai bien constaté qu'en fait le film a été réalisé, créé, scénarisé par un homme blanc en fait, parce que on retombe toujours sur les mêmes clichés, il y a rien de nouveau en fait dans ce type de futur. Donc en fait les personnes qui créeront un futur nouveau dans les jeux vidéo, dans les films, dans les jeux grandeur nature, dans tous les autres médias, bah c'est uniquement les personnes qui sont ici, les personnes qui alors je dis pas que les personnes cis ne peuvent pas justement débloquer des choses et voilà, mais il y a cette idée de d'arrêter d'être englué en fait dans ces visions qui en réalité ne font pas évoluer et ne montrent pas de nouvelles choses et ne font que anesthésier le cerveau et dire ah en fait les nouvelles choses ne peuvent pas exister, si elles existent parce qu'elles sont autour de nous et les personnes qui peuvent l'imaginer sont autour de nous, il suffit juste d'échanger et de mettre en place quelque chose pour les montrer en fait simplement.
Il suffit aussi de, on a un groupe sur c'est pas très bien parce que c'est sur Facebook ou les GAFAM, bah c'est pas bien, on a un groupe pour les personnes qui sont géanistes et sur le spectre de la sexualité ou de l'aromantisme et les autres spectres ace, et où du coup on parle de comment on peut faire des intrigues en jeu de rôle, notamment en jeu de rôle grandeur nature, sans intégrer de romance ou sans que la romance soit au centre de ton développement de personnage. En fait, tu as le droit de vivre des belles histoires d'amitié, des belles histoires de conflit, des belles histoires de lutte, sans qu'il y ait forcément my one true love, ton amour unique qui va sauver ton GN en fait. Donc si, voilà, c'est possible, et on essaye, moi en tout cas dans mes gènes, j'essaye toujours, quand j'écris les personnages, ce qui n'est pas toujours le cas, souvent on les co-crée avec les joueuses ou les joueurs, quand j'écris les personnages, j'écris toujours et je fais relire un personnage qui n'a pas de dynamique autour de la romance, qui est sur le spectre Ace-Arrow et qui a des dynamiques du genre, ben moi, ce soir, j'aimerais bien qu'il y ait de la pizza, et à notre réunion queer, moi mon objectif c'est, entre guillemets mon objectif, c'est qu'on ait de la pizza. Ou qu'on discute de comment on intègre nos histoires d'amitié, quoi. Et qu'on arrête de parler des dramas relationnels des uns et des autres.
Est-ce qu'il y a d'autres envies de réponse? Et du coup, est-ce qu'il y a des questions
Alors, je me demandais, dans un contexte d'écriture de jeux, de scénarios ou jeux vidéo, est-ce qu'il vaut mieux jouer dans une utopie déjà réalisée, ou alors plutôt jouer vers la réalisation de l'utopie? À quel moment ça devient plus intéressant, plus ludique?
Oui, bon, après, tout le monde, je pense, pourrait avoir envie de réponse, mais ouais, c'est une super question. Je pense pas qu'on puisse décider, il faut jouer ça ou ça. Je pense que les deux sont hyper importants, parce qu'effectivement, il y a ce truc-là, je disais au début, dans la réalité, on a tendance à peut-être être coincé dans la lutte et pas avoir l'après. Et donc ça peut être intéressant d'avoir un truc où on préfigure l'après. Mais en même temps, pour lutter contre ce truc-là écrasant de, en fait, on lutte contre un ennemi invisible et visible de façon beaucoup trop multiple et beaucoup trop grand pour nous, je trouve que c'est aussi hyper intéressant de jouer le fait de lutter, parce que ça nous rappelle qu'on a de la puissance à tous les moments. Et ça, c'est un point qui, je pense, que j'essaie d'avoir en tête dans ma vie ordinaire, et que peut-être le jeu peut aider à visibiliser. En fait, on n'est jamais tout à fait impuissante. Et donc, il y a quelque chose de très fort à pouvoir investir de façon narrative, de façon ludique, des endroits où, en fait, on se rend compte de là où est la puissance. Sachant qu'en fait, on en a toujours une, il faut la trouver. Et voilà.
Après, je peux me permettre de rebondir. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que ça peut, c'est hyper intéressant de créer des jeux dans lesquels on découvre et on imagine comment lutter, comment sortir d'un cadre, d'une oppression, de plein de choses. Après, je pense que pour des tas de personnes qui luttent aussi au quotidien, c'est souvent décourageant de voir l'état du monde. Et pour des personnes qui n'ont pas la force ou l'envie de lutter, je pense que c'est aussi un excellent outil de commencer par jouer dans un futur désirable qui est déjà en place, de s'imaginer jouer dans une utopie et commencer par se dire en fait ça pourrait être ça aussi. Ça peut aussi se donner envie après de lutter autrement dans la vie réelle ou de jouer à des jeux sur comment on ferait pour accéder à ça. Mais il y a plusieurs vertus au fait de jouer dans un monde utopique. Déjà, se créer une bulle quand on en a marre du réel, hein, de la réalité telle qu'elle est. Vouloir se créer une bulle de bien-être et sortir de son quotidien, c'est déjà un excellent outil. Et se donner envie d'agir, tout simplement, aussi. Et ensuite, bien sûr, passer par des jeux avec des outils d'empuissancement sur ces questions-là, c'est effectivement, c'est jamais une mauvaise idée, en tout cas.
Du coup, on se demandait, sachant que ça va sûrement reprendre beaucoup de choses que vous avez déjà dites, hein, mais du coup, le lien que vous voyez entre votre expérience de jeu et votre vécu en tant que personne minorisée.
Moi, en fait, on en discutait un peu avant, je pars toujours de mon expérience quand je design un jeu, parce que quand je joue, pendant longtemps, quand j'ai joué à des jeux, je voyais pas de personnes queer, trans et handy, en fait. Donc, j'avais envie d'en voir. Et par exemple, je connais pas, et il faut me corriger si je me trompe, je connais pas de jeux qui parlent, par exemple, de jeux grandeur nature qui parlent, par exemple, de personnes roma ou romani, comme mon grand-père, ou de personnes handy comme moi, sur certains faits. Et je suis en train d'en designer un avec une autre personne handy qui s'appelle Executive Dysfunction, où on joue vice-versa dans le corps d'une personne qui vient d'être diagnostiquée avec une maladie qui n'existe pas, qui s'appelle Wiggly Bones Disease, la maladie des os jelly. Parce que moi, j'ai le syndrome Ehlers dans l'os, donc j'ai les os un peu jelly. Et elle a une sclérose en plaques, donc elle a aussi des problèmes articulaires. Et du coup, on s'est dit, il faut faire un jeu qui parle autour de ça, mais qui soit fun, qui soit drôle, qui soit accessible. C'est-à-dire que des personnes qui ont le même handicap ou des handicaps proches d'une autre puissent le jouer, donc en étant assis autour d'une table, et que tout le jeu se fasse autour de cette table où tu joues The Big Company, qui gère le corps d'une personne handicapée. Et la Big Company vient de subir une OPA. Et il y a Maladie qui vient d'arriver. Et Maladie a dit « Ah, on n'a plus le budget pour faire ça. Donc rêve, tu te calmes. » Ça, c'est l'acte 1. L'acte 2, c'est « Ah, il y a quelqu'un qui arrive dans notre vie. Comment est-ce qu'on intègre cette nouvelle personne ?» C'est une romance, voilà. Comment on intègre cette nouvelle personne autour de notre vie en tant que personne malade? Puisque ça, c'est aussi un tabou, la vie amoureuse, affective et sexuelle des personnes handies. Certaines en ont une, donc c'est important d'en parler. Merci beaucoup.
Moi, je peux continuer éventuellement. Donc oui, bon, forcément, on a envie de voir des choses peut-être qui nous touchent, ça va nous motiver à écrire des choses différentes. Je pense à un jeu que j'ai écrit, qui parle d'avortement, que j'ai écrit parce que en l'espace d'une semaine, j'ai vu passer deux jeux qui parlaient d'interruption volontaire de grossesse. Et dans les deux cas, c'était hyper misérabiliste, machin. Et en fait, je trouvais quelque chose... C'était censé être plutôt pro-avortement. Mais en fait, moi, dans la, tout ce que j'en percevais, je me disais, bah, en fait, ces gens-là, ils se positionnent quand même en tant que anti-avortement. Enfin, en tout cas, dans la rhétorique... justement misérabiliste de, et moi j'avais envie de partager mon expérience à moi d'avoir subi une IVG et ça va quoi, et donc je me suis mis une contrainte, c'était je jure je vais écrire un jeu feel good sur l'avortement, et en fait bon, ça c'est pas un jeu feel good parce que je suis pas très feel good dans ma tête, mais où en fait je me suis dit bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire passer, j'ai envie de faire passer le fait que le choix d'interrompre ou de poursuivre une grossesse, c'est un choix, en fait. C'est vraiment de mettre l'accent à cet endroit-là et sur le sentiment de liberté que moi, j'ai pu avoir en me disant, en fait, je suis dans un pays où c'est possible de le faire et j'ai le choix de le faire et le choix de ne pas le faire. Et il y a des conditions matérielles qui font que c'est plus ou moins possible et tout ça. Mais en tout cas, avoir ce que l'expérience d'avoir une IVG m'a apporté à moi, c'était vraiment de me rendre compte de tout ce que j'avais intériorisé comme injonction, comme contrainte et tout ça, et de me dire, en fait, je ne suis pas obligé de me sentir mal, je ne suis pas obligé d'avoir tout ce bagage traumatique-là. En fait, ça peut ne pas être mon bagage. Et donc, ça m'a poussé à écrire un jeu qui s'appelle Child Free, qui veut dire à la fois sans enfant et libre d'enfant, du coup. On est chiant tous les deux à écrire des jeux en anglais d'abord et ensuite ouais. À les traduire en français, c'est insupportable. Bon.
C'est pas trop accessible de notre part.
Ouais, c'est clair. On les traduit quand même après, on fait. Mais bon, voilà. Et donc, typiquement, parce que dans le panel de jeux qui était proposé, je me suis retrouvé avec des choses qui collaient pas du tout avec mon expérience et que je trouvais même plutôt dommageable en fait par rapport à ces expériences-là, quoi.
En vous écoutant, j'étais en train de me dire effectivement que. Je me rends compte depuis longtemps que mon vécu en tant que personne, alors je suis une personne qui va du coup, en termes d'intersectionnalité, il y a beaucoup de croisements qui se font, étant une personne noire, trans, handy aussi, c'est pas hyper visible quand je me déplace, que j'ai une bonne mobilité, mais je porte deux prothèses en fait. Et du coup, je me rends compte qu'en réalité, il y a des choses qui viennent avec le temps. C'est-à-dire qu'on est dans des combats pour soi et avec soi. Et parfois, en fait, on va se rendre compte de l'importance. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Donc, c'est pour ça que souvent, c'est plus par le prisme de ma fille que du coup, il y a des choses qui s'allument dans mon esprit, notamment la couleur de peau. Donc, ça m'a fait revenir en arrière en me disant, ah oui, non, mais en fait, j'ai vécu ça et ça, en fait, ça va pas du tout. Hein, parce que du coup, il fallait que j'arme ma fille sur justement des choses que moi j'avais. Voilà. Donc, c'est en voulant l'armer, elle, que du coup, je me suis rendu compte de ce que moi j'avais pu vivre. Et je pense que moi, je suis encore dans ce processus-là. Du coup, est-ce que plus tard, je vais créer un jeu ou des jeux qui vont parler de ça, je sais pas encore. Et voir, je me demande si... je sais pas du tout. Je n'arrive pas à savoir si du coup, pour moi, ce serait une bonne chose ou si c'est juste j'ai besoin que ça va émerger et j'ai OK, d'accord, donc j'ai à ça. Est-ce que du coup, j'ai envie de le traduire et en parler? Ou est-ce que finalement, de façon plus discrète, je vais peut-être mettre des éléments ici et là? Ou alors, est-ce que finalement, je vais plus aller vers quelque chose qui sera complètement différent et faire en sorte que, comme cette idée, vraiment cette idée de jeu que j'ai eu avec le nuage qui change d'état, voilà, c'était vraiment quelque chose plus pour partir en fait d'une certaine réalité et me retrouver dans une espèce de cocon et me sentir bien. Donc, je sais pas, on verra. Parce que c'est vrai que... Est-ce qu'effectivement, des choses qui peuvent nous marquer, on a envie de toujours le partager ou est-ce qu'on a envie peut-être juste que ce soit un fait et du coup de continuer à avancer avec? Voilà, c'est un peu, mon état d'esprit en tout cas par rapport à ce que je peux être comme personne et ce que je peux vouloir mettre... Dans mon travail. En tout cas, une chose est sûre, c'est que par contre, mon expérience va par contre servir pour les personnes à qui j'enseigne. Quel que soit l'enseignement, ce que j'ai, là, je suis en train de former une personne dans le tatou. À un moment donné, je donnais des cours de dessin et je leur disais, voilà, tout ce qui est purement technique et autres, ça, c'est des choses que vous pouvez apprendre sur Internet et je vous donnerai des références. Mais après, maintenant, c'est mon ressenti et mon expérience, la façon dont je perçois les choses que je vais pouvoir en fait, vous transmettre aussi. Et ma perception dans mon travail, effectivement, en tant que professeur, c'est cette perception, c'est un peu ce vécu que je vais ressortir, non pas de façon négative ou traumatique, c'est plus dire « attention, voilà ». Vous pouvez effectivement vous retrouver dans une situation où vous allez peut-être je ne leur dis pas comme ça, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'ils évitent de blesser quelqu'un ou d'heurter ou de prendre en compte tout simplement les personnes pour pouvoir créer, en fait.
Notre dernière question s'adressera, je pense, plutôt à Lolvé, Axiel et Louise, pardon Do. Mais est-ce que vous auriez des conseils pour les personnes qui... toi aussi. Est-ce que vous auriez des conseils pour les personnes qui souhaitent s'initier au JDR, au GN ou à la création de jeux vidéo? Par exemple, des ressources, des assos, des JDR à tester.
Alors, je peux commencer. En fait, ça dépend parce que pour les personnes qui ont envie, je pense, de tester le GN, le jeu de rôle ou la création de jeux vidéo. Je pense qu'en termes de jeux vidéo, on parle plutôt de création que de, je pense, de jouer aux jeux vidéo. Oui. Je pense que ça dépend du point bloquant, de ce qui fait que les personnes n'ont pas passé le cap. Moi, par exemple, de mon expérience, je suis arrivée tardivement sur ces sujets-là, et c'était pas par manque d'envie. J'en parlais tout à l'heure avant qu'on commence. Par exemple, le jeu de rôle Grandeur Nature, c'est quelque chose qui me faisait rêver quand j'étais gamine, quand j'étais ado. Je rêvais un jour de faire un jeu de rôle Grandeur Nature, de faire mes habits, d'avoir des armes en mousse et de courir dans une forêt. Voilà, c'était vraiment mon rêve. Et j'ai fait mon premier GN à 30 ans, il y a deux ans, parce que c'était quelque chose que je ne m'autorisais pas personnellement. Je n'étais pas aussi entourée des personnes qui pratiquaient ce loisir. Donc parfois, on a envie de passer le cap, ça nous fait rêver. C'était pareil avec le jeu de rôle d'ailleurs. Il a fallu que j'attende une certaine personne qui est d'ailleurs ici dans cette salle, qui m'initie au jeu de rôle pour que je passe le cap. Mais si c'est une question de... Ça peut être une question de rencontre, d'entourage, du fait qu'on se sent seul. Je pense qu'il y a beaucoup de clichés aussi autour de ces pratiques. Moi, pendant longtemps, j'avais un entourage de personnes qui ne se considéraient pas du tout comme geek. J'étais la seule à me considérer comme un peu geek dans mon entourage. Donc, du coup, je jouais seule aux jeux vidéo dans ma chambre et je n'avais pas forcément le courage de franchir le cap toute seule, d'aller peut-être sur Internet rencontrer des gens qui font ça et trouver des gens avec qui le pratiquer. Ça peut commencer par en parler autour de soi, voir s'il y a des copains, copines, copaines qui sont intéressés, aller faire trouver les bonnes rencontres, peut-être aller sur des réseaux un peu safe sur Internet. Alors moi, je connais surtout le jeu de rôle et je pense qu'il faut faire assez attention parce qu'il y a quand même beaucoup de... On peut facilement avoir une mauvaise expérience selon les personnes avec qui on est. Alors je ne dis pas ça pour être pessimiste ou quoi, mais je pense que c'est des pratiques qui nécessitent d'être entouré de personnes assez safe et de mettre en place des process, encore une fois, hein, autour de la sécurité émotionnelle, de ce qu'on recherche, de ce qu'on attend. Je pense qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire avec n'importe qui, parce que ça peut créer des moments de malaise ou de mal-être qui peuvent très facilement être évités. Donc voilà, commencer par chercher autour de soi, chez les camarades, dans les réseaux, et puis... Après, pour des ressources, il y en aurait plein, mais ça, ce serait plutôt une bibliographie qu'il faudrait donner de scénarii et de textes autour de tout ça. Voilà.
Oui, je dirais effectivement, comme toi, c'est vraiment déjà l'envie. Est-ce qu'on a envie ou pas, tout simplement. Et puis, si on a l'envie, effectivement, il y a plein de moyens. Il ne faut surtout pas se dire qu'on ne peut pas. Dans le sens où on a toujours l'habitude de voir les mêmes personnes qui ont l'habitude de dire oui, je peux, et en fait, elles ne savent pas, elles se retrouvent dans des situations à. Comme je disais à des amis, on a plein de gens les garçons blancs ont toujours cette habitude de se dire « Ok, ils peuvent tout faire » et puis ils se retrouvent dans des positions. Et au final, ils n'ont pas forcément les compétences. Donc, il faut vraiment se dire que la compétence commence par la motivation. Voilà, point. Et ensuite, chercher les informations, regarder un peu ce qui se passe. De mon côté, justement, à un moment donné, il y avait un événement qui s'appelait le Queer Game Festival qui a eu à Paris. Il y en a eu en 2021-22. Je pense que après, j'ai pas vu d'autres infos dessus. Mais il y a moyen, par exemple, d'aller sur une plateforme qui s'appelle itch.io où il y a effectivement, ça regorge de justement jeux indépendants faits par des gens qui ont juste envie de créer et qui le posent là. Il y a des jeux qui sont où on fait des donations, mais la plupart du temps, les jeux sont gratuits en fait. Il y en a énormément de gratuits, donc il y a moyen d'essayer un peu, même peut-être de se dire, de tester, de voir quel jeu existe, qu'est-ce que des gens font du jeu vidéo, et dire oh, bah, finalement, moi, mon idée, ça peut être intéressant, ça se rapproche de ça. Ou alors, c'est un peu dans cet esprit-là, ce que je pense et ce que j'ai envie de faire vaut d'être créé en jeu vidéo, et donc allons-y. Et il y a justement sur itch.io, il y a une section, si vous tapez jeu queer ou game queer, du coup, vous en allez avoir énormément. Ça aborde plusieurs sujets. Ce sont des personnes queer qui le font. Du coup, déjà, la base même est un mindset queer. Donc, du coup, quel que soit le type de scénario, il y a déjà des choses que vous allez, qui vont être mises de côté et que vous n'allez pas retrouver. Après, en termes de réalisation, il y a plusieurs logiciels qui permettent de créer des jeux vidéo où, en fait, vous n'avez même pas besoin en fait de créer vos personnages. Des fois, vous pouvez juste récupérer ce qu'on appelle des sprites, c'est les personnages en mouvement. Donc, si vous voulez juste raconter une histoire, vous récupérez en fait déjà des choses existantes, des paysages, des autres. Hein, vous rajoutez vos histoires et par le biais de non pas de la programmation, mais ce que je disais tout à l'heure, le WYSIWYG, savoir appuyer sur tel bouton en disant voilà, là à ce moment-là, il se passe telle interaction avec telle personne, il va se dire ça. Bref, si vous pouvez raconter des histoires, même raconter votre propre histoire. J'ai vu une personne qui a fait son CV sous jeu Game Boy, c'est-à-dire qu'en fait, il sort de la maison, il rencontre des gens, enfin voilà. Donc en fait, en réalité, un jeu, c'est juste une histoire et ça peut être tout et n'importe quoi. À un moment donné, je me suis même dit tiens, j'aimerais bien, quand j'aurai le temps, créer un petit jeu vidéo sur le cocon, donc mon salon de tatou, où en fait, les gens voient qu'est-ce que c'est de faire un tatou, à savoir le moment où il faut rencontrer la personne, enfin bref, faire toutes les étapes en jeu vidéo et montrer en fait que les gens... Pour certaines personnes, des fois, se rendent pas compte et tout, mais de l'implication nécessaire. Mais c'est vrai que le jeu vidéo, justement, peut aussi permettre aux gens d'être à la place de l'autre et de mieux comprendre. Là, j'ai un exemple du jeu d'une femme trans qui en fait a créé un jeu en mode RPG où en fait le jeu commence où elle doit simplement aller boire un café avec son ami et en fait elle doit s'habiller et rien que le fait de s'habiller. Déjà, elle doit réfléchir, ok, est-ce que je vais y avoir un passing? Est-ce que c'est ok? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Comment je me coiffe? Donc, elle se prend à la tête, elle appelle sa copine en disant, oui, écoute, je ne sais pas trop. Donc, il y a tout ce truc. Donc, ça peut raconter ce que vous voulez, quoi. Même aller chercher une baguette de pain, le moment où vous allez sortir de votre appartement, caresser le chat avant de partir. Même si c'est ça que vous voulez mettre en image et faire jouer, juste faire un peu, juste jouer un peu quelque chose qui dure 5 minutes. Un jeu vidéo peut durer, j'en ai joué un qui dure 20 minutes, où en fait on fait des gâteaux pour un village qui fête Noël. Et le jeu vidéo a duré 20 minutes et j'ai trouvé ça trop bien. Quand je parlais justement d'objectifs, oui, l'objectif c'était de faire des gâteaux, mais il est tellement simple et abordable, c'est-à-dire qu'on prenait des commandes, on récupérait, et voilà, et en fait c'était terminé. Et il y avait une joie hyper agréable de voir le jeu terminé, et genre en 20 minutes, on se dit ah, c'est trop cool, c'est vachement bien ce que j'ai fait. Enfin voilà. Bref, tout ça pour dire que vraiment n'importe quel sujet peut être tourné en jeu vidéo. Et il y a plusieurs. Il y a un logiciel qui s'appelle Game Maker, un autre qui s'appelle RPG Maker, pareil, qui est assez simple aussi. Et un autre s'appelle donc GB Studio dont j'ai parlé. Mais pareil, à la limite, comme je disais, enfin comme on disait tout à l'heure, en me contactant, je peux vous redonner les infos, des liens, sans problème. Je pense même que je vais préparer un peu une petite liste à donner directement aux gens qui me poseraient la question. Voilà. Donc en gros, franchement, si vous avez l'envie, quoi que ce soit que vous ayez envie de raconter, si c'est juste même pour le fun, comme je disais tout à l'heure, le temps de vie va être traduit en monnaie à un moment donné, mais il peut être traduit en plaisir en fait dans ce que vous aurez fait et ce que vous aurez produit en fait.
Ouais, concernant le GN, j'ai envie de dire aussi, n'importe quoi peut être un GN et on n'a pas besoin de se prendre la tête. Voilà, donc on peut inventer le GN. Il y a des gens qui font ça tout le temps et c'est très bien. Pour rencontrer des gens qui en font, c'est un peu compliqué. Je trouve qu'à Toulouse, il y a plein de personnes intéressantes qui font du GN, mais on ne se parle pas entre nous, on ne se voit pas, et on n'a pas d'endroit où on se...
Oui.
C'est terrible.
Il faut qu'on organise ce week-end de scénario de GN sur Toulouse.
Un immense merci, du coup, à Lolvé, Louise, Do et Axiel. Vraiment, merci beaucoup pour votre intervention et pour tout le travail de préparation aussi. Un grand merci à l'association La Petite qui organise le festival et du coup à l'équipe salariée et l'équipe bénévole du Girls Don't Cry qui nous ont suivis sur cette proposition et qui nous ont accompagnés dans la préparation de la table ronde. Et voilà, je crois que c'est fini. Merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir écouté Girls Don't Cry. Girls Don't Cry est une production La Petite,
montée par Julien Couralet du Studio Capitol,
sur une musique originale d'Alain Ranaï-Vonjatovo,
réalisé et animé par Camille Maton et Margot Groll.
On se retrouve dans le prochain épisode.
Et d'ici là, laissez les musiques vous faire
danser,
rire,
pleurer,
vibrer,
aimer.